Sébastien Rivas, avec Anou Savis, vous avez depuis 2 ans, ça fait 2 ans maintenant, vous avez...
Ça va faire 1 an et demi.
Et vous avez pris le Gramme, qui est quand même une institution. Je ne sais pas combien d'années ça existe, le Gramme, en fait.
Depuis 35 ans, ça existe depuis 1982.
Ça a traversé toute l'histoire de l'informatique.
Oui, en effet, ça a été d'abord un projet qui a été très très discret au début, dans ses débuts, mais très ambitieux. Toujours avec Yann Orlaret, qui est notre directeur de la recherche, qui est un des fondateurs, avec Pierre-Alain Jaffrenoux et James Giroudon. Et au début, effectivement, c'était un petit peu comme beaucoup de centres de création, je crois. Une démarche qui commence un petit peu dans des bureaux et qui petit à petit pose les prémices de ce qu'allait être le méridien art science dont on parle aujourd'hui beaucoup et qui a donné naissance à beaucoup de démarches d'informatique musicale. Le premier dispositif de spatialisation avec Matrice qui s'appelait Symphonia qui est encore dans nos locaux un peu comme une pièce de musée mais qui est très très efficace en fait. Donc l'histoire de Gramme a été aussi l'histoire des œuvres qui ont été commandées par Gramme et la naissance du festival qui après a été biennalisé. Donc voilà, il y a toujours eu un pied dans la recherche, un pied dans la production, un pied dans la création et dans la diffusion. Et puis plus récemment, de plus en plus, la médiation.
Et comment se fait la répartition entre la partie technique en soi, développement d'outils et la notion de création? Est-ce que comment ça s'articule ces deux composantes en fait?
Ah bah c'est une articulation, je dirais, qui est un travail de tous les jours parce que ça pose un certain nombre de problématiques, à savoir est-ce que on stabilise des dispositifs et on demande on promeut leur écriture, leur mise en eau, je dirais, ou est-ce que ce qui est peut-être plus ma tendance, ou est-ce qu'on écoute plutôt les besoins des artistes et on développe après les dispositifs qui sont ou les langages qui sont ceux qui sont nécessaires pour eux. Alors, en fait, c'est un constant va-et-vient parce que sinon finalement aucune hypothèse ne peut vraiment se développer, ni celle du prototype d'un côté, ni celle de la pensée prothétique du créateur ou du compositeur qui à un moment veut adjoindre une technologie ou une technologie qui peut l'aider tout simplement à théoriser ou à concevoir son œuvre sans pour autant qu'elle soit forcément de la diffusion ou d'interaction. Donc c'est un constant va-et-vient qui se cherche au fur et à mesure des projets. Alors il y a des projets qui font appel particulièrement à notre équipe de recherche. Je pense notamment aux projets qui se sont développés avant notre arrivée, par exemple, comme toutes les technologies autour de la captation gestuelle avec Lightcool System, aussi des pièces comme Virtual Rhizome, qu'a fait Vincent Carinola, voilà. Et depuis notre arrivée avec Anouk, il y a un certain nombre d'autres nouvelles tendances qui à mon avis sont là aujourd'hui dans la réappropriation de la technologie qui est moins institutionnalisée. Beaucoup d'artistes sont beaucoup dans cette idée du do it yourself. Ils sont beaucoup plus autonomes aussi, donc on a moins besoin parfois du développement informatique, musical, mais beaucoup plus d'aller dans le fond. Et donc là, le rapport à l'équipe de recherche est évident. Peut-être on passe pour certains projets directement sans passer par le réalisateur informatique musical, entre l'artiste vraiment et l'équipe de recherche. Et après, il y a des projets qu'on accompagne sans pour autant produire, parce que ils ont du sens dans les outils que Gramme a proposés, comme InScore, comme le langage de programmation Faust, et qui font appel à ces technologies ou à ces langages, et qui ont un pied à l'IRCAM, un pied au ZKM, un pied chez nous. Ce sont des projets portés par des compositeurs mais qui n'ont pas tout de suite une débouchée de production, et c'est important de soutenir aussi ces démarches.
Et donc vous avez des articulations avec des centres de recherche, l'université, le CNRS aussi?
Oui, nous avons beaucoup de relations avec l'INRIA là plus récemment, avec l'université de Saint-Étienne, bien sûr, avec les équipes de recherche de l'IRCAM, mais surtout notre équipe de recherche travaille beaucoup avec Stanford. À Stanford, nous sommes très très impliqués. Le langage Faust est un langage qui quelque part, alors je vais rentrer un petit peu dans le fond de la chose, est un descripteur qui décrit l'abstraction mathématique d'un certain nombre de d'action de synthèse sonore et en ce sens, il peut permettre après d'être encapsulé, comme on peut dire, dans différents autres, langages de diffusion qui pourraient être comme par exemple MaxMSP ou qui font appel des fois à des objets qu'on encapsule et ça assure une vraie pérennité d'un certain nombre d'œuvres parce que demain, il y aura un nouveau langage, une nouvelle encapsulation, il suffit de le désencapsuler, de lire la fonction mathématiquement décrite et de le réencapsuler dans l'hypothétique nouveau langage. Donc la stabilité de ce langage de programmation, aussi le fait qu'il a il consomme très peu de ressources avec très peu de latence, donc il est très très performant pour ce qu'on appelle le web audio, c'est-à-dire pour faire de la synthèse sonore via le web directement. Donc en ce sens-là, effectivement, à Stanford et dans l'ensemble de la Silicon Valley, ce langage est très très important et très très reconnu. Les ingénieurs qui aujourd'hui sont recrutés chez Apple vous voyez dans les annonces, Faust faisant partie des langages qu'ils doivent, qu'il serait un plus qu'ils maîtrisent. Donc nous avons fait une plateforme, un cours en ligne qui s'appelle un MOOC, qui a eu plus de 1000 inscrits. Et donc nos chercheurs, le dernier chercheur qu'on vient d'engager qui s'appelle Romain Michon, qui a fini son doctorat justement à Stanford, et en détachement tous les ans, 3-4 mois, pour enseigner Faust justement. Donc oui, nos liens avec les universités du côté de la recherche sont très très forts. Et après, nous avons aussi bien sûr un lien plus territorial qui est plus articulé entre recherche, création et pédagogie et transmission, comme on l'appelle, surtout avec l'université de Saint-Étienne, mais avec l'université de Lyon 2 aussi. Bien sûr, on a beaucoup travaillé avec le centre d'énergie atomique, le CEA de Grenoble. Cela fait partie, on va dire, de nos partenaires territoriaux et il y a toujours beaucoup de nouvelles initiatives qui sont soit promues par la recherche, soit par la médiation, soit par les classes des conservatoires comme à Dijon, comme à Saint-Étienne et comme bien sûr au CNSM de Lyon.
Vous parlez d'encapsuler, vous voulez dire que la grande question qu'il y a dans la musique et de synthèse, c'est toujours la pérennité des outils.
Oui. Oui, tout à fait, le portage des œuvres, la pérennité des outils. Au-delà des questions esthétiques qui peuvent se poser sur le, qui sont des questions, sur le goût et la manière, peut-être aussi sur le fait qu'il y ait des sonorités de synthèse qui peuvent être datées ou référentielles, mais tout est référentiel, hein, un violon aussi l'est, il y a un certain nombre de choses qui le sont. Au-delà de ça, il y a vraiment au point de vue tout simplement de l'idée de répertoire qui me semble une idée centrale en fait dans ce qu'on fait d'une façon bien plus générale, c'est-à-dire qu'on est censé quand même créer du répertoire ou inscrire un certain nombre, je dis pas tout, mais un certain nombre d'œuvres dans une idée de répertoire. C'est peut-être ce qui a fondé cette vieille terminologie de musique contemporaine, musique actuelle, où repose la temporalité. Pourquoi deux termes pour décrire une temporalité qui semblerait dire la même chose, je pense que c'est la question du répertoire, c'est-à-dire que c'est une musique qui est écrite aujourd'hui, mais qui a vocation à un moment créer un répertoire. Et ce répertoire, à partir du moment où on parle de musique de synthèse, d'arts digitaux, c'est un vrai sujet parce que ce sont des instruments, pour ainsi dire, qui évoluent très très rapidement et qui, l'importance du compositeur, selon la demande de l'œuvre, il y a des pièces qui sont beaucoup plus portées que d'autres, qui peuvent rester un peu dans les oubliettes ou qui impliquent une vraie réflexion pour la remise en place de tout ce dispositif. Je pense à Vinko Globokar, par exemple, qui est un compositeur que j'adore et qui a beaucoup travaillé à l'IRCAM. Il y a un certain nombre de pièces que j'aurais aimé faire, mais qui sont aujourd'hui, pas forcément, qui impliquerait un vrai travail de portage, et comme ça, un certain nombre.
À cette époque-là, on ne se posait pas vraiment la question. On faisait et ça se consumait ou consommait.
Ouais, oui, oui. Et ben oui. Et donc du coup, ça implique pour tous les centres nationaux de création musicale, pour surtout pour ceux qui ont créé quelques œuvres de répertoire, comme Gram, qui a beaucoup travaillé avec Philippe Manoury, par exemple, et pas que. Et bien d'autres. Et où, bien sûr, l'IRCAM, n'en parlons pas. C'est un budget qui n'est pas du tout contemplé, en fait, ce budget-là. Donc, c'est une vraie problématique qu'il faut travailler avec les éditeurs aussi, parce que justement, on parle de répertoire, techniquement, c'est aussi la relation aux éditeurs, c'est aussi la relation aux diffuseurs de ces musiques qui veulent faire telle ou telle œuvre. Et donc, on doit à chaque fois, au coup par coup, essayer de trouver la façon de pouvoir porter ces œuvres. Des fois, la mémoire n'est pas toujours évidente sur certaines œuvres qui sont très très mal ou peu documentées. Mais quoi qu'il en soit, c'est un vrai défi, le portage des œuvres, et je pense qu'il faudrait à un certain moment avoir une réflexion plus grande au niveau d'une intention aussi politique sur ce que l'on fait et comment on procède avec notre patrimoine numérique.
Et ce patrimoine numérique s'articule aussi un instrument classique, traditionnel, l'ensemble de musique contemporaine. Et cela, comment se fait-il? Comment l'articulez-vous? Comment arrivez-vous à trouver le bon articulation dans l'environnement lyonnais et Saint-Étienne, bien sûr?
C'est vrai qu'on a aujourd'hui, on observe aussi des pratiques qui sont de plus en plus transdisciplinaires. Donc, la pièce pour ensemble et électronique n'est pas forcément ce qui, en ce moment, ce qui sort le plus, je dirais, du chapeau des créateurs, leur intention en tout cas. À partir du moment où ils convoquent un certain nombre de personnes sur scène, il y a une relation, je pense, humaine qu'on vise aussi à construire dans la transdisciplinarité. Une autre façon de produire, une autre façon de travailler, on est arrivé quand même à des situations qui sont un petit peu difficiles, je pense, dans la musique de création, en termes de temps de répétition, ce qui fait que finalement, la relation s'est beaucoup professionnalisée. Mais par moments, c'est un petit peu déshumanisé, je dirais. C'est moins évident pour un compositeur aujourd'hui, comme à une autre époque, de dire « Ah oui, je travaille étroitement avec les interprètes », parce que ces interprètes doivent faire leurs heures, ont du temps de répétition, alors à moins qu'il y ait et heureusement il y en a beaucoup, des relations personnelles, amicales, des accointances musicales qui font que on a quand même envie de consacrer du temps à un compositeur. Pour un ensemble, c'est encore moins possible, c'est encore moins vrai. Donc il y a beaucoup de démarches de collectifs. Nous, par exemple, on a été très surpris et agréablement surpris de constater que dans la région, il y avait un certain nombre finalement de démarches comme le collectif Ouest, divers collectifs qui sont échos avec lesquels on va commencer à travailler à partir de l'année prochaine, qui sera peut-être un de nos ensembles en résidence. Donc des démarches comme ça de jeunes ensembles qui sont faits autant de compositeurs que d'interprètes. On en voit aussi dans la démarche qui a donné naissance à un ensemble comme ça, une initiative. Mais bien sûr, nous avons des liens qui sont privilégiés parce que c'est des liens aussi historiques, de répertoire justement, avec l'OC, avec l'ensemble orchestral contemporain, avec qui, même s'ils sont plus implantés à Saint-Étienne, avec lesquels on travaille très très étroitement, avec l'Orchestre National de Lyon, avec lequel on travaille bien de façon assez suivie, aussi dans un cadre où on fait 3 concerts par an avec un lieu de musique électronique et expérimentale qui s'appelle Le Sucre, dans un programme qui réunit un artiste soliste de l'Auditorium Orchestre de Lyon, un artiste proposé par Gram et un artiste proposé par Le Sucre qui essaye d'une certaine façon de créer une continuité et des liens entre diverses pratiques musicales. Et donc on travaille aussi beaucoup, par exemple cette année avec le chœur Spirito, avec lequel on a commandé des pièces à Alexandros Marqueas et à Gian Vincenzo Cresta. On travaille avec des solistes locaux aussi beaucoup, on a eu beaucoup de travail ces dernières années avec Christophe Desjardins, dont on regrette beaucoup à Gramme sa disparition. C'était quelqu'un qui avait fait beaucoup avancer avec la commande de Partita déjà à Manoury et cette articulation avec la captation du geste instrumental, le suivi de partition avec Ante Scofo, c'était des projets qui devaient être portés aussi par la passion des interprètes parce que cette aventure finalement qu'implique la recherche musicale dans un centre national de création musicale, elle repose aussi beaucoup sur les interprètes. C'est très important qu'il y ait des interprètes qui soient convaincus, qui soient militants, qui donnent de leur temps. C'est très frustrant en fait pour un interprète quand on y pense en séance de travail de jouer avec toute l'énergie que demande, surtout par exemple quand on est dans une situation de captation du geste. Il faut vraiment être dans l'énergie du geste et repartir jouer peut-être une seconde trente. Non, et on arrête parce que il faut régler quelque chose, parce que ça ne démarre pas, parce que ça ne réagit pas. Encore, on arrête et tout ça des fois à une distance de 6 mètres avec un casque dans les oreilles, c'est vraiment, on est vraiment dans un laboratoire et il faut vraiment des interprètes qui soient capables de porter ça et c'est une attitude très très, voilà, je dirais très militante, très louable et qu'on a, voilà, Christophe Desjardins était pour nous cette perle rare, mais bon, bien sûr, on a aussi d'autres musiciens qui, comme le Quatuor Bella, avec lequel on travaille aussi beaucoup, des solistes comme Yiping Yang, mais aussi bien d'autres qui passent chez nous, comme Florentin Ginot, qui est un petit peu une sorte d'artiste associé, dans le sens où on suit un peu ses propositions tout en l'ayant toujours proche de nous pour travailler sur du répertoire mixte. Et bien sûr, on a un laboratoire aussi qu'on a créé tout récemment, auquel peut-être on pourra parler à un autre moment. Le LIPS, ouais, tout à fait. Oui, ça aussi, ça correspondait vraiment à cette idée de voir émerger beaucoup de démarches dans lesquelles il y a un partage de l'autorat, des écritures qui sont entre des écritures plateau et des écritures abstraites de composition. Il y a une caractéristique quand même historique, je pense, qui est importante de dire par rapport à ce qu'est Gramme. C'est que c'est un lieu dans lequel on a porté beaucoup de projets d'interaction. Quand je dis interaction, c'est vraiment la question du mouvement et du son, mais de la vidéo aussi. Mais toujours dans cette idée de l'écriture. Il y a quelque chose pour nous de très important, qui est peut-être aussi le modèle qui a vu émerger Light Music de Thierry Demey, qui est à la base de ce travail qu'on a développé à Gramme qui s'appelle Light Wall System, c'est qu'il y a derrière un compositeur qui porte une vraie ambition d'écriture, pas juste un jeu d'interaction. Et ce modèle de développement est un modèle très très important. Alors aujourd'hui, on voit des écritures encore plus éclatées en termes de médias. Et LIPS était pour nous la possibilité d'un espace pour promouvoir, mais aussi pour voir émerger, je dirais, un certain nombre de démarches, pas toujours avec une obligation de résultat. Et donc on a décidé effectivement de créer un laboratoire qui puisse concentrer une dizaine de jeunes artistes de toutes disciplines confondues qui ont une vraie réflexion sonore ou musicale et les accueillir en résidence, en longue résidence. En tout, ça fait plus de 35 jours de résidence. Ils sont là sur des périodes de 10 jours, 3 fois. Ils sont encadrés par des gens qui sont dans une démarche comme celle-là, comme Daniel Zea, qui est un compositeur, inventeur, rime, touche-à-tout, colombien, qui habite dans la région de Genève, donc à côté de chez nous. Pierre Jodlowski aussi, qui est de plus en plus dans cette idée qu'il transmet très bien à LIPS, qui est l'idée d'aborder, bien sûr, la transdisciplinarité, mais avec les outils d'un compositeur. Et il se définit avant tout comme compositeur. Et je pense que ça, c'est, encore une fois, ça rejoint cette idée de l'écriture et cette idée de comment cette articulation entre l'écriture de la synthèse, entre l'écriture musicale, entre la, bon, la volonté de théâtre musical à une époque, d'opéra à une autre qui a un peu, petit peu renaît ou pas, d'ailleurs, je sais pas trop. Mais il y a vraiment une expérience, je dirais, dans un flux de travail, un workflow, comme on appelle, non? Il y a celui du cinéma, mais celui du théâtre musical, celui du laboratoire plateau aussi qu'impliquaient certains projets des centres nationaux de création musicale sont aussi une vraie expérience dans l'écriture des médias. Et c'est un petit peu ça ce que transmet Pierre Jodlowski, mais on a aussi des gens comme François Chéniaud, des plasticiens qui font des installations autant que de l'illustration, comme Géraldine Koziak, Patrice Hamel qui est un scénographe mais très très pluridisciplinaire. Et voilà, et ce laboratoire du coup sera dans sa première édition, sortira de l'eau, je dirais, le 28 mars lors d'une restitution où ils prendront toutes les salles et tout l'espace d'un théâtre aux ateliers Presqu'Île à Lyon.
Et alors, la question est intéressante parce que les gens du théâtre vont vers ce qu'on appelle l'écriture de plateau. Et l'écriture de plateau va en contradiction un petit peu, ou du moins pose problème par rapport à la conception du compositeur qui est toujours une écriture exempte, qui n'est pas une écriture de plateau mais une écriture exempte. Est-ce que cette problématique vous parle ou est-ce que c'est...
Absolument, c'est le cœur de la problématique à mon sens. C'est d'où l'idée de prototype ou l'idée de dispositif. Moi, j'ai un peu fait un travail un peu épistémologique juste avant la d'être nommé à Gramme. J'étais d'ailleurs investi dans une thèse que j'ai dû laisser de côté parce qu'on peut pas tout faire, sur quelque part les conditions d'émergence de l'œuvre transdisciplinaire. C'est toujours pompeux les titres de thèse, l'approche systémique d'une écriture. Voilà. Alors bien sûr, il faut pour ça aller, à mon avis, assez loin dans le modèle, je dirais, du travail avec la station audio numérique. Parce que la composition déjà au niveau de la station audio numérique est, on peut voir qu'il est déjà un peu comme une écriture plateau, je dirais, sur une plateforme qui est voilà, soit des bandes qu'on découpait à un moment, mais un certain nombre de choses qui sont dans le essai-erreur, c'est-à-dire on essaye, qu'est-ce qui se passe si je le retourne avant de théoriser bien sûr un langage. Donc il y a cette question qui a été beaucoup, je dirais, théorisée dans ce qu'on pourrait appeler la seconde cybernétique, et qui a à voir aussi, je pense, avec la façon dont on a de plus en plus compris ou essayé ou tâché de comprendre la façon dont émerge une idée, déjà, non, au niveau des neurosciences, au niveau de... comme je disais, de la cybernétique, et on se rend finalement compte que le schéma fonctionnaliste, qui consistait à très simplement un algorithme où il n'y a pas de résidu et un résultat unique, n'est pas forcément comme ça qu'émerge finalement l'idée ou qu'émerge même l'œuvre. Qu'on est plus dans une vision connectiviste, dans laquelle effectivement on peut parler d'un système. Aujourd'hui, on comprend par exemple qu'un arbre n'est pas le système qu'il fallait étudier parce qu'il y a en fait un comportement dans une forêt entre les arbres eux-mêmes qui peuvent venir soigner quelqu'un de malade ou qui peuvent prévenir les autres sur la possibilité d'une bactérie et se protéger. On commence à voir, c'est d'où la mode de ce terme écosystème, c'est-à-dire que oui, c'est finalement un système duquel vont émerger un certain nombre de résultats qu'on n'a pas prévus avant. Alors pour ça, il faut revenir à Georges Simondon et à qui était un peu le corpus que j'étudiais. Simondon, qui est à la base de tout ce que, d'une grande partie en tout cas, de ce que va après théoriser aussi Deleuze dans ses idées de viser à avoir une force qu'il prend de Paul Klee d'ailleurs, une force centripède et une force centrifuge, c'est-à-dire d'abord on crée un cercle autour d'un et on territorialise, pour ainsi dire, un cercle autour d'une idée, un cercle autour d'une démarche, et puis petit à petit on l'ouvre. Pourquoi? Parce que on a créé un dispositif un peu plus grand qui permet alors du coup de prendre un peu plus de territoire, et des forces se stabilisent et s'aménagent, et il y a une stratification, et petit à petit on prend des décisions. Et cette idée de l'émergence de l'œuvre, surtout de l'œuvre transdisciplinaire, de l'œuvre collective des fois, mais pas que aussi. Je pense que quand on a écrit un opéra, on voit très bien comment, surtout quand on l'a écrit de façon, je dirais, presque contemporaine, entre le livret, la musique et la production, pour ainsi dire, où les différents acteurs, les différents besoins sont toujours dans ce modèle qui est la rétroaction, c'est-à-dire le feedback, non, les boucles, des boucles à l'intérieur desquelles finalement, voilà. Donc c'est très informatique, on va dire aussi, comme pensée, c'est dans le sens de la cybernétique, mais c'est très, je dirais, logique, du coup, d'amener ça comme élément de réponse à cette question que tu poses sur l'écriture plateau et l'écriture compositionnelle, c'est-à-dire l'écriture à la table. Bon, c'est une transduction un peu de ce que je fais, bien sûr. Je comprends très bien la différence. Je pense qu'il y a un va-et-vient, du coup, qui vient du fait de se dire qu'en fait, on définit un dispositif scénique. Donc, c'est le premier geste d'écriture, je pense, c'est celui-là. Lachenmann disait, je pense, que composer, c'était réfléchir à ses outils, c'était réfléchir à son environnement de diffusion aussi, puis se laisser agir. C'est un petit peu ça, l'idée même. C'est-à-dire la composition ne commence pas lorsque l'on pose un crayon sur une feuille de papier à musique, ou lorsque l'on pose un clic sur un ordinateur, est fini lorsqu'on a mis la double barre. En fait, la composition, elle commence dans la définition du dispositif, et peut-être, pour certains, finit-elle dans la diffusion et encore, on ne sait pas après qu'est-ce qui se passe chez la personne qui part avec ses petits éléments de ce qu'il a entendu. Mais donc pour moi, définir un dispositif, c'est le premier acte compositionnel. Et en ce sens, ce dispositif peut être un dispositif scénique. C'est-à-dire à partir du moment où on se dit, on recrée un instrument. Et c'est là où je pense que le compositeur est fort et a son mot à dire. C'est-à-dire que je me souviens quand j'ai écrivé ma première pièce pour percussion, où finalement, c'est un peu ça, on crée un instrument. La percussion est super vaste et on se dit, bon, bah, alors comment je vais organiser ça? Donc alors du coup, on catégorise le matériau. Ben, c'est vrai qu'il y a des bois, des peaux, des métaux. C'est vrai qu'on peut avec une pensée, on va dire, schaefferienne aussi, savoir celles qui sont plus nodales que d'autres, celles qui ont des notes qu'on peut plus ou moins vraiment stabiliser, celles qui sont dans un registre très grave, qui enclenche beaucoup d'énergie, et petit à petit on se dit, bon bah on va créer un instrument, et après très vite on se dit, il y a un corps qui a des baguettes et pas que, et des brosses et des, voilà, et quoi que ce soit, ou des chaînes, et peu importe. Donc il va falloir mettre sa tablette ici, il va falloir créer cet instrument et se dire que s'il doit faire ci et aller, ça implique tel déplacement. Et c'est là où le compositeur, finalement, il arrive quand même à définir un certain nombre d'actions, de gestes, et c'est là où vient la définition propre de ce qu'est un dispositif selon... Alors c'est un joli livre de Giorgio Agamben qui fait cette archéologie de la notion de dispositif chez Foucault aussi. Donc un dispositif est quelque chose qui répond à une nécessité, quelque chose qui a pour but quelque part de conditionner un corps. Donc un stylo est un dispositif, et si le dispositif d'écriture c'est celui-là, bah voilà, ce sera 5 lignes, un stylo, un certain nombre de codes, peut-être il faut en inventer des nouveaux, mais il faut quand même qu'ils soient compréhensibles, donc il faut qu'ils soient en relation à l'histoire de la codification d'une certaine façon. Mais le dispositif peut être un décor en mouvement, des lumières, des machines, du code informatique, et toutes ces écritures, à un certain moment, un compositeur a en tout cas des ressources pour pouvoir s'attaquer à ça.
Un terme que l'on voit souvent, et que vous l'avez cité, c'est le terme de transduction. Qu'est-ce qu'il vient faire? Est-ce qu'il fait le lien? Ou est-ce que c'est un terme fantôme que je rencontre dans beaucoup de textes aujourd'hui?
Ah, transduction, oui, bien sûr, parce que la transduction, avant tout, c'est quand même, on parle de transduction pour ou de transducteur pour un micro ou un haut-parleur, c'est-à-dire c'est le passage finalement d'un du continuum de l'excitation des particules d'air, par exemple pour ce qui est du son, qui percute sur une membrane qui est celle attachée à un pôle magnétique qui est celle d'un micro et qui va créer du courant électrique. Donc on passe du terrain physique au terrain électrique. Donc ça c'est effectivement la définition en audio numérique de la transduction. Mais finalement, il y a dans ce terme-là la possibilité de se dire que dans les écritures de médias différents, il y a des formes d'organisation du matériau ou des formes d'approche, des stratégies d'approche dans l'organisation du temps, dans l'organisation des différents paramètres catégorisés, on va dire, pour parler très techniquement, mais qui soient ceux du mouvement, ceux de l'image, etc. Et la possibilité non pas d'en faire une métaphore, mais au contraire vraiment de les appliquer à la lettre dans un autre média. Donc c'est dans ce sens-là qu'on parle de transduction, et c'est dans ce sens-là où c'est très intéressant cette idée du co-autorat, des écritures mixtes, parce que il y a finalement la possibilité d'amener des vrais, je dirais des vrais gestes entièrement structurés d'écriture dans un autre média. C'est de ça dont il s'agit peut-être dans l'IPS aussi, d'étudier ce genre de possibilité de transduction.
Oui, c'est aussi donc un concept qui est à la frontière du dispositif et du lien.
Oui, c'est très intéressant, tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord, Omer. Oui, c'est vraiment ça. On pourrait vraiment définir ça comme ça. En effet, c'est tout à fait ça. C'est comment on approche ce dispositif finalement, avec quels instruments. En effet, le lien. Je suis d'accord.